France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 février. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la promesse d'Emmanuel Macron, tous les adultes qui le souhaitent pourront se faire vacciner avant la fin de l'été. 4 sites de production en France vont par ailleurs être mis à contribution. Les autres titres, Agnès.
Une campagne de vaccination qui passera peut-être par le vaccin russe, Sputnik V. Si les élèves ne peuvent pas aller en entreprise, c'est l'entreprise qui vient aux élèves, la belle initiative d'un lycée de l'Oise. L'opposition s'organise en Birmanie, témoignage d'un expatrié français à Rangoon. Et puis un livre comme un cri, celui d'une mère dont l'enfant a été enlevé et amené en Syrie.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Sommes-nous encore en démocratie, s'interroge-t-elle dans son dernier essai. Et elle appelle à une révolution raisonnable du peuple. Révolution raisonnable, ça veut dire quoi? On lui pose la question. Natacha Polony sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. On se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale. Aujourd'hui avec le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, Éric Piolle, au micro d'Inter. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Une intervention surprise du chef de l'État hier soir pour détailler un nouveau calendrier de la campagne de vaccination en France après les retards de livraison, les prises de rendez-vous difficiles et les controverses sur le délai souhaitable entre deux injections. Emmanuel Macron a donc fixé un objectif, une vaccination possible pour tous les adultes qui le souhaitent avant le 22 septembre.
Début mars, nous aurons vacciné l'ensemble des pensionnaires de maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD, qui ont souhaité, 80% ont souhaité, ça représente environ 500 000 de nos concitoyens, ils seront tous vaccinés début mars. On aura vacciné largement au-delà de ces établissements, dans cette période aussi, les plus de 75 ans. Nous allons continuer cette stratégie, et d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin. C'est exactement le même rythme, la même solution que nos voisins allemands et que nos autres voisins européens. Aujourd'hui, ce qui nous contraint, c'est l'accès aux doses. Et donc, ce qu'il faut réussir à mobiliser, ce sont tous les laboratoires qui permettent de produire ces vaccins homologués par nos autorités sanitaires pour le plus vite possible acquérir le maximum de doses en toute sécurité.
Emmanuel Macron hier soir sur TF1. Et pour accélérer la production en France, le chef de l'État s'est entretenu hier soir avec les patrons des grands laboratoires pharmaceutiques et des sites de production pour accélérer les cadences. 4 sites en France devraient être mis à contribution dans les semaines qui viennent. Un nouveau conseil de défense sanitaire doit également avoir lieu ce matin. Hier, les autorités sanitaires ont également validé le vaccin développé par AstraZeneca. Les 400 000 premières doses vont arriver en fin de semaine et elles seront réservées aux moins de 65 ans. Et c'est aussi de la Russie que pourrait venir une partie de la solution. Le vaccin Sputnik V se trouve désormais dans le trio de tête en termes d'efficacité. 91,6% dans les formes symptomatiques du Covid. Daniel Messager.
C'est un vaccin original. Certes, comme AstraZeneca, il est à vecteur viral. Il s'appuie sur d'autres virus adaptés. Mais celui-ci, on utilise deux différents des adénovirus humains pour chacune des deux injections. Idée originale qui ne surprend pas le professeur Odile Launay, membre du comité vaccin Covid-19.
Les chercheurs russes, depuis longtemps, font de bons vaccins, tout à fait habitués à développer des vaccins. Et puis, on avait eu des données qui faisaient état d'une efficacité de l'ordre de 90%, donc ça confirme ce qu'ils avaient déjà communiqué, mais qui était très préliminaire. La question qui va se poser, c'est de savoir si les normes de qualité qui sont exigées par les agences européennes ou américaines vont être respectées par ce vaccin. Et ce qui est demandé, c'est d'avoir une traçabilité du développement depuis le début, et en particulier ici de la construction du vecteur. Il faut laisser l'agence européenne du médicament, lorsqu'elle le fera, si c'est le cas, donner son avis.
Le dossier sera étudié la semaine prochaine par les scientifiques de l'Agence européenne du médicament. L'ensemble des vérifications prendra au moins plusieurs semaines avant une éventuelle homologation.
À ce jour, 1 610 000 Français ont reçu une première dose de vaccin et 103 000 la deuxième. Et à 3 jours du début des vacances d'hiver pour la zone A, les départs restent possibles. Aucune restriction de circulation, mais un nouvel appel au respect strict des gestes barrières et du couvre-feu. Emmanuel Macron a demandé hier soir aux Français d'être collectivement extraordinaire extraordinairement responsable, car le virus circule. Un peu plus de 23 000 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures et 404 décès à l'hôpital. Le nombre de patients en réanimation continue d'augmenter. 3 270 patients dans un état grave hier. Et l'inquiétude sur la propagation du variant anglais, qui représente déjà 15 à 20% des cas en Île-de-France, avec la découverte hier d'une mutation du variant anglais qui le rendrait proche des variants sud-africains et brésiliens. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 7h30. Dans ce contexte où le télétravail est la norme, difficile, voire impossible pour les jeunes de décrocher un stage en entreprise, une situation particulièrement dramatique pour les filières professionnelles, le lycée Les Jacobins à Beauvais a donc décidé de créer une mini-entreprise au sein de l'établissement pour les élèves de première en filière métier de la mode pour pouvoir valider leur bac pro. Julie Pietri.
Pendant 3 ans, les élèves de la section métier de la mode sont censés se frotter au monde de l'entreprise. L'an dernier, en mars, première déconvenue, stage annulé, c'est le début du Covid, et ça recommence pour les mêmes élèves cet automne. Pour Morgane, 17 ans, la déception est énorme.
Comment je vais faire? Qui va vouloir me prendre? Personne. C'est ma petite vie que je vais jouer.
Mes collègues et moi-même, on s'est dit, c'est absolument impossible qu'à nouveau, il n'ait pas de stage.
Isabelle Cavalleri, enseignante en art appliqué au lycée des Jacobins.
Et on est parti du principe, en fait, que si c'était pas les élèves qui allaient à l'entreprise, c'était l'entreprise qui allait venir aux élèves.
Il créait donc, au sein du lycée, une mini-entreprise, Jacomode. Les élèves apprennent à faire des retouches, à fabriquer des sacs en tissu de A à Z. Un soulagement pour Chloé, 17 ans.
C'était comme dans une entreprise, il fallait être rapide, précis, très sérieux.
C'est-à-dire que nous, on a essayé de jouer le jeu en tant que professeur. Voilà, il y a des choses, vous pouvez les faire en cours, mais là, en entreprise, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut pas bavarder et tourner la tête alors qu'on est sur une machine. On peut avoir une bonne ambiance, mais il y a une exigence, en fait, de l'entreprise.
Un professionnel est d'ailleurs là durant 4 semaines pour les encadrer. Aujourd'hui, les élèves cherchent un nouveau stage pour mars et en cas de reconfinement, les enseignants se disent prêts à renouveler l'expérience.
France Inter, il est 7h07. Officiellement, Agnès, tous appellent à l'unité de la gauche pour la présidentielle.
Oui, mais chacun trace son chemin. Yannick Jadot doit officiellement être candidat aujourd'hui. L'ancienne numéro 2 des Verts, Sandrine Rousseau, l'a fait la semaine dernière. Éric Piolle, le maire de Grenoble, invité du grand entretien ce matin à Inter à 8h20, et dans les starting blocks, l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg aussi. Les proches d'Anne Hidalgo s'organisent et Jean-Luc Mélenchon est officiellement en campagne avec un meeting hologramme prévu ce week-end. Au bal des prétendants, il n'y a pas beaucoup d'absents, Laurence Perron.
Il y a ceux qui, comme Arnaud Montebourg, considèrent qu'au regard de la situation, ils ne peuvent plus regarder passer les trains depuis le bord de la route. Il y a celle qui prendra toute sa part, Anne Hidalgo. Eux ne sont pas encore déclarés. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas ses pudeurs de gazelle.
Je me satisfais parfaitement d'avoir réglé la question du leadership dans notre famille parce que nous ne sommes plus en train de discuter de personne et nous sommes en train de pouvoir nous concentrer sur l'affinement sans cesse toujours plus précis comme un programme de gouvernement auquel j'aurai à m'atteler le moment venu avec d'autres.
J'en suis fort aise, lui répond en substance Olivier Faure, le premier secrétaire du PS.
Si on peut arriver à faire en sorte qu'on ait moins de populisme et plus de gauche, s'ils sont prêts à cet échange, ils seront les bienvenus.
Parce qu'au Parti Socialiste, pas question de parler d'incarnation, encore moins de primaire des hommes. Une primaire des idées, oui, avec tous les partis de la gauche sociale et écologique. Voilà qui semblait convenir au patron d'Europe Écologie Les Verts.
On me parle désignation et moi je réponds projet.
Mais Julien Bayou, bousculé par les candidatures internes, Sandrine Rousseau, Éric Piolle, Yannick Jadot, n'a pas d'autre choix que d'organiser une primaire en interne. Le Parti communiste regarde passer les balles, mais n'a pas encore dit son dernier mot. Son secrétaire national, Fabien Roussel, a été élu, on le rappelle, avec ce mandat, un candidat communiste à la présidentielle de 2022.
La libération de la parole dans le sillage de l'affaire Duhamel, la fille aînée de Richard Berry a porté plainte contre son père et une de ses anciennes belles-mères, Jane Manson, les accusant de viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. Les faits remontrés au milieu des années 80 et sont prescrits. Le comédien dément formellement dans un long message publié hier soir. Un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende requis hier à l'encontre d'Edouard Balladur. 2 ans avec sursis et 100 000 euros d'amende à l'encontre de François Léotard. L'accusation a estimé que les deux hommes étaient au courant du financement frauduleux de la campagne de 1995. L'audience se poursuit aujourd'hui devant la Cour de justice de la République avec les plaidoiries de la défense.
Il est 7h09, la situation en Birmanie, Agnès, avec le témoignage d'un expatrié français.
2 jours après le coup d'état militaire à Rangoon, la situation semble figée. La communauté internationale exige la libération immédiate d'Aung San Suu Kyi qui serait assignée à résidence. L'armée a pris les commandes, mais les appels à la désobéissance civile se multiplient. multiplient. Olivier Poujade a pu joindre un ressortissant français installé à Rangoon depuis 25 ans.
Placé en quarantaine pour raisons sanitaires dans un hôtel du centre de Rangoon.
Donc moi, je peux vous dire ce que je vois depuis ma fenêtre. Hein.
Boris a regagné la Birmanie quelques heures avant que les militaires ne décrètent l'état d'urgence.
Là, je vois en ce moment des camionnettes avec des manifestants qui rentrent, qui sont allés en ville manifester leur contentement pour l'armée. Je peux imaginer que ce soit ce type de manifestants à cause de la couleur de leur drapeau. Mais à part ça, il n'y a rien.
Comme s'il ne s'était rien passé. Il y a deux jours, les militaires ont repris le pouvoir en pleine nuit et en silence.
Toutes les communications, y compris la télévision, ont été coupées pendant pas plus de deux heures. Ben, sincèrement, j'ai eu peur. Si l'armée décide à un moment ou à un autre d'être plus répressive, ils peuvent le faire. Hein. On ne connaît pas leurs limites.
Ce chef restaurateur observe la ville, échange avec ses employés. Il se souvient des années de dictature, de la transition démocratique aussi, obtenue fièrement il y a 10 ans par les Birmans.
On est passé de la dictature à la démocratie sans effusion de sang. Et maintenant, tout d'un coup, bing, les militaires arrivent et reprennent le pouvoir de force, constitutionnellement selon eux. Eh ben, voilà, c'est un retour en arrière. C'est ça qui coûte le plus.
Le retour d'une junte que les Birmans redoutent, mais qu'ils n'hésitent pas à contester le soir à leur fenêtre dans un concert de casseroles.
Et un groupe nommé le Mouvement de désobéissance civile a d'ailleurs été lancé sur Facebook. Il compte ce matin près de 150 000 abonnés. Enfin, c'est le récit d'une mère qui cherche sa fille depuis plus de 5 ans. Lila a été enlevée et emmenée en Syrie par son père en 2015. Elle n'avait que 3 ans et demi. Revient Lila et le récit d'une mère, Magali Laurent, qui malgré l'effroi, continue de chercher son enfant. Ilana Moriousef l'a rencontrée.
La dernière fois que Magali Laurent a vu sa fille Lila, c'était pendant l'été 2016, par Skype. Une des rares conversations concédées par son ex-mari. 10 mois auparavant, prétextant des vacances en Tunisie avec la fillette, il était parti en Syrie à l'insu de la mère. Magali Laurent.
Il me la montre assez rapidement, en fait, par Skype, en vidéo, et là, bah, je vois ma fille qui est voilée. Elle a 3 ans et demi, elle va sur 4 ans, elle est voilée, et elle alterne à la fois le mot « maman » et Magali, en fait.
Lors de ces rares conversations, Lila demande à sa mère pourquoi elle ne vient pas.
J'aurais toujours cette question, si j'étais allée, qu'est-ce qui serait passé ? Pour moi, en fait, c'était même pas la peur de la guerre, c'était la peur de leur idéologie. J'ai pas eu ce courage que moi je formule comme une espèce de lâcheté. Hein.
Depuis 5 ans, Magali Laurent remue ciel et terre avec les enquêteurs. Elle a eu un autre enfant, mais le souvenir de Lila ne la quitte pas.
C'est de la survie. Le cerveau, il disjoncte. T'es coupé de tout, en fait. Moi, je me voyais flotter au-dessus de moi. Je me suis plongée dans l'action par survie, parce que je pouvais pas penser.
Ce récit, où chaque mot sonne juste, elle l'a écrit pour qu'une trace subsiste de l'existence de sa fille et pour que peut-être, si Lila vit toujours, quelqu'un la reconnaisse.
Revient Lila de Magali Laurent, écrit avec la journaliste Françoise-Marie Santucci et publié aux éditions Grasset. Et ce témoignage est à retrouver sur franceinter.fr.
Merci Agnès Soubiran.